et chantaient joyeusement les louanges du Seigneur. Cet incompréhensible bonheur, on le leur enviait, et il leur faisait des adeptes. Des conversions inattendues se multipliaient parmi les riches et les savants, comme parmi les moins favorisés. Ils savaient pourtant ce qui les attendait. Qui n'était au courant de la vie mortifiée des poverelli? Renoncer à toutes les gourmandises de la chair, aux délices du confort, à la volupté, avoir faim, avoir froid et prier. Tel était le coût de cette béatitude. Il ne paraissait pas trop élevé. Aujourd'hui encore, on se demande par quel miracle intérieur se recrutaient ces âmes données à Dieu. La présence de François y était pour beaucoup. Ce malade perpétuel n'en exultait pas moins et communiquait à tous cette paix du cœur unique et surtout cet amour des frères les uns pour les autres. Enfants de Dieu, ils avaient conquis la liberté de ceux que le monde ne peut plus séduire et qui jouissent de ne plus rien posséder. Quelle légèreté cela donnait! Mais aussi quelle épreuve! Car enfin, le corps était toujours là avec ses convoitises maîtrisées. L'ennemi, disait François, c'est le corps. À cause de cela, il devait souffrir. Le corps, c'est le diable, disaient les prédicateurs cathares dont la pureté de mœurs étonnait saint Bernard lui-même. Et bien avant eux, dans cet Orient mystérieux où l'ombre et la lumière se mêlaient, la chair était assimilée au mal et vouée aux ténèbres. Morte chez les zoroastriens, elle était abandonnée dans les tours du silence. Se pouvait-il qu'un peu de ce pessimisme ternît la joie si claire de l'âme franciscaine? Le fait est qu'il fallut du temps pour que François voulût bien donner à sa pauvre chair suppliciée par les mortifications et la maladie le nom affectueux de notre frère le corps. La paix entre eux s'était faite. Avant cela, cependant, il avait interdit les macérations classiques. Les instruments servant à cet usage, discipline, ceinture hérissée de pointes, furent jetés en tas et brûlés. Sans doute s'était-il avisé qu'il n'en était pas question dans les évangiles. Pauvreté, chasteté, obéissance suffisaient largement. Instruction des frères. Ce qui frappe chez François, c'est la délicatesse. Il savait très bien commander, mais le ton impérieux n'était pas son fait. Dans les premiers temps, il devina que les frères, tous zélés qu'ils fussent, avaient honte de mendier. Ce vestige d'amour-propre ne l'irrita pas. Simplement, il décida qu'il donnerait l'exemple et partit seul pour la quête, de porte en porte, et revint le soir avec tout ce qu'il fallait. Cela dura quelques jours, mais ses forces s'y épuisaient, et les frères, sans doute un peu confus, écoutèrent ses instructions sur l'art de mendier, puis s'enfuirent docilement à leur tour. L'orgueil vaincu laissa place à une gaieté enfantine. De retour à la portioncule, ils comparaient en riant le résultat de leurs expéditions individuelles. Si profond était l'amour de François pour la pauvreté, qu'un jour, rencontrant un miséreux encore plus dénué de tout qu'il ne l'était lui-même, il en eut une crise de tristesse et comme de jalousie. Le monde dit que nous sommes, pour l'amour du Christ, les plus pauvres des pauvres. Eh bien, c'est faux. Celui-ci nous en donne la preuve. Tel était, dans sa douce rigueur et sa nudité, l'enseignement de François. À ses frères, il donnait tout ce qu'il possédait dans son cœur. Les frères lui demandèrent un jour, comme les disciples du Christ, « Apprends-nous à prier. Que pouvait-il faire de mieux que ce que fit Jésus ?» Il leur apprit à réciter de toute leur âme le Notre Père, et voici la note toute franciscaine. Les frères en éprouvèrent une telle joie que dans leur simplicité,